franceinter.com. Le 7-9 du week-end.
Stéphane Paoli.
Sandra Freeman.
Sandra Freeman.
Stéphane Paoli.
Sur France Inter.
Et bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Sandra.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Combien de fois vous est-il arrivé de plier une feuille de papier ou de faire un nœud ? De le faire sans vous rendre compte, peut-être, que ces gestes, du point de vue des mathématiques, engagent une réflexion et des calculs extraordinaires. Ces calculs sont inaccessibles à la plupart d'entre nous, mais nous devons savoir qu'ils visent à l'élégance, qu'ils laissent place au principe d'incertitude. C'est la raison pour laquelle je disais « peut-être » à l'instant. Peut-être sans nous rendre compte que les mathématiques et la physique ne sont pas au cœur, mais le cœur du monde où nous vivons. Bientôt, au mois d'août prochain, en Inde, sera décernée la médaille Fields, la plus prestigieuse récompense en mathématiques, équivalente au prix Nobel. 9 fois déjà depuis 1936, lorsqu'elle a été créée, les Français ont été lauréats. Les mathématiciens français sont parmi les meilleurs du monde. La région parisienne concentre, dit-on, la plus forte densité mondiale de mathématiciens. Et il est un lieu hors du temps, hors de toute contrainte, et même celle du résultat, où ils peuvent poursuivre leurs recherches et prendre le thé à 16 heures en partageant leurs réflexions, leurs visions, leurs intuitions qui sont souvent poétiques. Alain Cohn, qui est professeur au Collège de France et professeur à l'IHES, l'Institut des Hautes Études Scientifiques, cette fameuse maison extraordinaire, qui est lui aussi médaille Fields, considère que les mathématiques constituent l'outil de pensée de loin le plus élaboré que nous ayons, pour comprendre le monde qui nous entoure, Sandra.
Et oui, nous allons tout d'abord ouvrir ce 7-9 avec le mathématicien Jean-Pierre Bourguignon, qui est professeur de mathématiques d'exercice partiel à l'École Polytechnique, président du comité d'éthique du CNRS et qui est le directeur de ce fameux IHES, l'Institut des Hautes Études Scientifiques, qui est à Bure-sur-Yvette. Et il nous présentera, lui, cet institut, qui est une sorte de pépinière atypique de génie scientifique. Une fois ce tour du propriétaire fait, à 8h20, nous engagerons cette question que vous venez d'évoquer, Stéphane, cette question de savoir si les mathématiques et la physique aujourd'hui supplantent la philosophie pour comprendre le monde. Ce sera avec le mathématicien Jean-Yves Chemin, qui lui est professeur à l'université Pierre et Marie Curie et directeur de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris. Mais la philosophie pourra tout de même s'exprimer dans ce 7-9. À 9h20, Laurence Luret ouvrira la parenthèse avec le philosophe Roger Paul Droit pour parler donc de philosophie, de mathématiques et de finances.
Imaginez, s'il vous plaît, une jolie maison en région parisienne. Vous savez, un peu comme celle qu'on dessine quand on est enfant avec le toit à deux pentes, les belles fenêtres, le jardin, un grand jardin avec de beaux arbres. Et dans toutes les pièces de cette maison, des tableaux sont accrochés au mur, mais ce sont des tableaux noirs, avec à proximité de la craie et une éponge. Cette maison extraordinaire permet à tous ceux qui l'habitent, à tout moment, où qu'ils se trouvent, et donc pas seulement dans un bureau, de développer une idée, de la tracer au tableau, et peut-être ainsi de préparer ou d'expliquer un nouvel aspect de notre monde. Ce lieu, c'est l'IHES, Institut des Hautes Études Scientifiques, que vous dirigez, Jean-Pierre Bourguignon. Bonjour.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
D'être dans le studio avec nous ce matin. Vous êtes mathématicien, vous êtes donc directeur de l'IHES à Bure-sur-Yvette, vous êtes professeur de mathématiques, c'est là où ça devient compliqué Sandra, professeur de mathématiques d'exercice partiel à l'École Polytechnique et vous êtes aussi le président du comité d'éthique du CNRS depuis maintenant 3 ans. Une maison incroyable. Vous avez le sentiment d'habiter une maison comme il n'en existe peut-être aucune autre en Europe ?
Disons qu'il faut être toujours prudent quand on prétend à l'unicité, mais j'ai le sentiment d'habiter une maison incroyable, qui n'est pas habitée que par des mathématiciens, puisque
non,
c'était
oui.
même la volonté du créateur de faire se croiser dans ce lieu des scientifiques, et surtout d'abattre les barrières, de faire que les gens, quelle que soit leur discipline ou leur sous-discipline de l'instant, acceptent de se parler, disons, simplement pour prendre en considération ce que l'autre a à dire, indépendamment de son étiquette.
Alors le créateur, pardon Sandra.
Non, mais justement, alors, comme vous le disiez, le créateur, c'était un industriel qui était féru de mathématiques, qui s'appelle Léon Mochan. Dans quel contexte et pour quelles raisons a-t-il voulu créer cet institut ?
Ah, ça, c'est une chose pas forcément complètement explicite. En tout cas, c'est quelqu'un qui, disons, dans sa jeunesse, a émigré de Russie d'abord, juste avant la révolution d'octobre, et ensuite a étudié en partie en Suisse, s'est installé en France ensuite pour devenir un industriel, très actif dans la résistance, et à un moment, visiblement, a été, disons, plus satisfait de son métier d'industriel, investisseur dans différentes parties du monde, et a souhaité soutenir une thèse de mathématiques à 50 ans, ce qui est pas banal du tout.
Et
pour lui, est devenu une obsession de créer en Europe un institut analogue à l'Institute for Advanced Study qui est à Princeton, dans lequel se sont retrouvés Einstein, von Neumann. Et à ce moment-là, il a été introduit à Oppenheimer. Un de ses frères habitait d'ailleurs dans le New Jersey, très près de Princeton. Et Oppenheimer a joué le jeu d'essayer de faire une sorte de copie en Europe de l'Institute for Advanced Study, mais en l'épaulant. Pas du tout en cherchant à en prendre le contrôle. Et donc, Léon Mochan est arrivé, après, disons, un travail de conviction auprès de ses amis industriels, à trouver le soutien nécessaire pour lancer en 1958, sur une initiative strictement privée, l'Institut des hautes études scientifiques IHES.
Mais là, vous venez de dire quelque chose déjà qui fait une différence. Vous dites en l'épaulant et pas en voulant prendre le contrôle. Et quand on vous regarde, les uns et les autres, les mathématiciens, les physiciens, on parlera de la biologie aussi et du rapport entre la biologie et les mathématiques, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous porte, qui ne vous met jamais en affrontement, qui vous met toujours en partage. Qu'est-ce qui fait cette différence? Alors, peut-être que je suis un peu angélique, je ne sais pas, mais on a en tout cas cette impression-là.
C'est vrai. Disons que, en ce qui concerne la communauté mathématique, c'est peut-être parmi toutes les communautés scientifiques, une de celles où la compétition est très très rude, mais elle est rarement avec comme objectif de nier l'autre. Alors que c'est vrai qu'il y a des domaines scientifiques où la compétition est devenue tellement dure, en partie parce que les moyens financiers sont décisifs pour travailler, qu'il faut obtenir les moyens financiers au détriment des autres. Dans le cas des mathématiciens, nous avons aussi besoin de moyens, beaucoup de moyens humains, beaucoup de liberté. Et disons que c'est pas dans les mêmes termes que ça se passe.
C'est une émulation plutôt.
Voilà, il y a une émulation très forte et les mathématiciens souvent sont considérés comme très élitistes, c'est-à-dire n'acceptent pas facilement la médiocrité. Mais c'est vrai que c'est rarement en disant que ce qu'a fait un tel n'a aucune importance. Donc c'est peut-être une différence avec d'autres disciplines. En disant ça, j'ai pas du tout envie de dire que les mathématiciens sont meilleurs que les autres.
Non,
c'est
non,
lié
on
à la
compris.
Condition d'exercice du métier.
Mais la grande différence précisément quand on vient chez vous dans cette maison hors du commun à Bure-sur-Yvette, c'est qu'il n'y a pas pour ceux qui s'y trouvent nécessité de publication, en tout cas pas immédiate. On leur laisse le temps de chercher. Il y a la liberté incroyable, quoi.
Ça, pour nous, c'est le luxe qu'on offre. Ce luxe, je le dis au bon sens du terme luxe, c'est-à-dire le fait qu'il ait à la fois une dimension de liberté et aussi une dimension de prise de distance par rapport au monde qui vous entoure. Et effectivement, moi, une des choses qui me ravit comme directeur, c'est quand un visiteur, puisque nous avons beaucoup de visiteurs dans l'année qui viennent du monde entier, quand un visiteur vient me dire, s'excuser presque de dire, j'avais envie quand je venais ici de faire ça, puis j'ai rencontré un tel que je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, il n'était même pas mathématicien, il était physicien ou il était biologiste, et je me suis rendu compte qu'on se réfléchissait aux mêmes questions. Et on s'est mis à travailler ensemble. Donc ces bifurcations sont pour nous des signes de santé et des signes que le schéma fonctionne.
Et quand vous parliez tout à l'heure de l'Institute for Advanced Study de Princeton et cependant qui est l'IHES, est-ce que la culture des mathématiques est la même? Est-ce que les domaines de compétences sont les mêmes entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France et donc en Europe?
Alors si vous voulez, quand on regarde historiquement le développement des mathématiques, il y a vraiment eu, disons, des marques culturelles très fortes sur la façon de faire des mathématiques. Par exemple, les mathématiques chinoises, qui ont été extraordinaires dans l'Antiquité, étaient très différentes des mathématiques grecques. Mais dans le développement actuel des mathématiques, il y a vraiment une osmose et un langage qui s'est unifié. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des écoles ou des façons d'aborder les choses. Mais malgré tout, l'intelligibilité entre mathématiciens est presque totale. Ce qui fait que les mathématiciens peuvent bouger dans le monde entier et se retrouver immédiatement de plein pied avec des collègues qu'éventuellement ils n'ont jamais rencontrés, mais avec lesquels ils peuvent immédiatement partager un problème, partager une idée. Et donc ça fait une dimension, enfin ce qui fait que la dimension internationale de l'Institut est très naturelle. Elle n'a pas à être fabriquée et nécessite des sortes de démultiplication. On peut être tout de suite en prise avec tous les gens qui viennent et nos visiteurs qui restent en moyenne 2 mois, très vite, il se trouve complètement immergé dans ce milieu avec une capacité d'échange sans limite.
On en trouve la porte aux questions que nous poserons tout à l'heure au mathématicien Jean-Yves Chemin pour savoir si les mathématiques et la physique sont une clé pour comprendre le monde. Mais juste pour prolonger un instant la question de Sandra, on avait fait une fois une émission qui disait en gros quand on écrit différemment, on pense différemment. La différence par exemple entre l'écriture cursive et les idéogrammes japonais ou chinois. Est-ce que les mathématiques seraient donc une clé universelle qui arriverait à transcender cette différence d'approche culturelle ?
Alors ça, vous mettez le doigt sur une chose extrêmement importante qui est la représentation des choses. Et c'est vrai que les mathématiques se sont quand même beaucoup développées sur un schéma qui est quand même hérité de l'Antiquité grecque, dans leur développement actuel. Ce qui fait que j'ai des amis japonais en particulier qui m'ont dit, quand ils voulaient être sûrs d'une démonstration, ils la repensaient en anglais parce qu'en japonais, ils avaient l'impression que les liens logiques n'étaient pas aussi stricts que dans une description. Donc, vous mettez le doigt sur une réalité extrêmement importante pour les mathématiciens.
Et vous avez remarqué, Sandra, il faudra qu'on y revienne, l'exigence. Il faut, quand on parle avec un mathématicien, il faut faire très attention toujours aux mots qu'on utilise. Parce que si on n'utilise pas le bon mot, on peut lui casser l'esthétique de son raisonnement. Donc, il faut être très... Ils sont fragiles, ils sont magnifiques, les mathématiciens.
L'impression, là.
France Inter.
Stéphane Paoli.
Sandra Freeman.
Le 7-9 du week-end.
Ça nous fait drôle, hein, Sandra, de nous faufiler entre les pubs comme ça.
Oui, mais on s'y retrouve, regardez, on est là. Profitons-en bien.
Il faut être un peu patient.
Il faut parler très vite derrière. Dans le 7-9 ce week-end, on s'ouvre aux mathématiques, puisque la France, on le sait trop peu, est une terre de mathématiques, en se classant deuxième mondial, juste derrière les Américains en termes de récompenses internationales. Mais
oui,
voyons.
On considère le nombre de la population.
On est premier.
Ah bah alors.
Oui, mais on avance doucement.
Disons-le.
Pas de triomphalisme. Voyons donc justement tout de suite le rapport entre la terre et les mathématiques.
Le jardinier avec solabiol.com. Conseils et solutions en jardinage biologique.
Entre terre et mathématiques, forcément, Alain Baraton vient d'apparaître dans ce studio. Bonjour Alain.
Bonjour Stéphane, bonjour Sandra.
Bonjour Alain.
Alors si la nature n'a pas besoin des maths pour exister, l'homme a sans doute besoin des maths pour comprendre la nature, non ?
Oui, alors les mathématiques, mon cauchemar. Autant je trouvais normal à l'école...
À vous aussi ?
Ah oui, je trouvais normal d'apprendre à l'école le français, l'histoire, la géographie. Autant je pensais que les mathématiques ne servaient à rien.
Ah, moi j'adorais.
Je me souviens même de ce que l'on nommait les identités remarquables. Je découvrais que la somme de deux nombres au carré, comme A plus B au carré, correspondait à A au carré plus 2AB plus B au carré. Aucun intérêt.
Mais c'était bien meilleur que moi, en tout cas, parce que je veux dire que moi, ça, j'y suis pas arrivé.
Ça, je m'en souviens. Mes résultats en mathématiques étaient tels que ma décision était définitive. Je serais jardinier. Adieu les problèmes complexes. Adieu les prises de tête. Sauf qu'il me fallut, et vite, maîtriser le calcul des angles, les volumes, les pourcentages, les racines carrées, bien évidemment, parler des droites et des segments, des arcs de cercle, des ellipses, des diamètres qui, multipliés par 3,14, vous indiquent une circonférence pratique pour mesurer le sol, le tronc d'un arbre volumineux. Les mathématiques ne sont pas seulement utiles à la création d'un jardin, elles permettent aussi de mieux comprendre la nature. Rien d'étonnant à ce que les botanistes utilisent les mathématiques dans leurs travaux. Prenons pour exemple une pomme de pin. Les écailles qui la composent sont disposées en deux spirales qui s'enroulent en sens inverse. Lorsque vous comptez le nombre de spirales, vous obtenez deux nombres qui sont consécutifs dans la suite de Fibonacci, un mathématicien italien du XIIIe siècle. Je n'expliquerai pas ce qu'est cette suite de nombres premiers, trop compliqué pour moi, mais ces travaux attestent que les écailles s'imbriquent ainsi pour se développer sans se gêner et profiter au mieux des rayons du soleil. La nature agit de manière naturelle, mais aussi et surtout mathématiques. L'exemple des écailles de la pomme de pin est un exemple parmi d'autres. J'aurais pu évoquer les écailles de l'ananas, la disposition des feuilles le long des tiges, l'implantation des graines du tournesol ou encore des fleurs et de leurs pétales. Beaucoup de botanistes furent ou sont de brillants mathématiciens, comme Joseph de Jussieu, à ne pas confondre avec son frère Bernard, Joseph de Jussieu qui partit au Pérou sous Louis XV, mesurait à l'équateur l'arc du méridien. Notre homme s'intéressait aussi à la botanique et c'est à lui que l'on doit l'introduction en France de l'héliotrope, une ravissante petite fleur, et qui travailla aussi sur l'écorce du quinquina, arbre dont on extrait la quinine. La botanique et les mathématiques sont finalement très très proches.
Vous ne cesserez jamais de nous surprendre, cher Alain Baraton.
Oui.
Tout ça est absolument passionnant. Qui vous écoutait, je le voyais acquiescer à ce que vous disiez, Jean-Pierre Bourguignon, qui dirige l'IHEN, l'Institut des hautes études scientifiques, qui est lui-même mathématicien. Il y a quelque chose, on s'est amusé un peu avec malice au début sur la difficulté des mathématiques et quelquefois leur aspect rébarbatif. Mais c'est vrai qu'assez vite, on peut rentrer dans une très grande difficulté pour comprendre. Vous est-il arrivé, et c'est ça qui est une sorte de posture assez paradoxale, quand on vous observe, vous, les mathématiciens, on voit des hommes souriants qui partagent avec plaisir des connaissances. N'avez-vous pas quelquefois le sentiment de l'isolement? Cette connaissance si particulière, si exigeante, ne vous isole-t-elle pas des autres?
Mais le risque existe absolument. De notre côté, il faut voir que l'isolement peut être au contraire, par moment, une nécessité. Ça dépend de l'intensité de votre travail de création en particulier. Et vous savez que les artistes, bien souvent, ont besoin de cette isolation pour créer. Donc, pour les scientifiques en général, alors c'est vrai que pour les mathématiciens, cet isolement, le risque est plus grand, puisque souvent, leur production peut être le résultat d'un travail un peu solitaire, ou en tout cas d'une petite communauté restreinte, éventuellement d'ailleurs disséminée dans le monde.
Mais d'ailleurs, ce problème d'isolement, est-ce que c'est pas lié avec un autre souci? Enfin, peut-être que ce n'est pas un pour vous, celui de l'élitisme d'une certaine façon.
C'est vrai, mais je pense qu'on peut prendre le problème à l'envers et se dire que, en particulier, ce problème d'appréhension du public vis-à-vis des mathématiciens, plutôt que du problème de compréhension, est peut-être en fait un peu encouragé par les mathématiciens qui se sont un petit peu, satisfaits de cette situation d'isolement. Donc je pense que...
Mais peut-être en ont-ils besoin?
Voilà, c'est ça que je voulais dire exactement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dialectique qui fait que on a besoin de cet isolement pour atteindre un certain niveau d'intensité de travail et en même temps, on doit s'en défendre et faire des efforts considérables, en particulier au niveau de la communauté mathématique, pour justement saisir toutes les occasions, pour justement parler des mathématiques, montrer comment elles se font, comment elles se créent. Et de ce point de vue-là, je sais que vous avez vu ce livre qui a été fait
qui
s'appelle Les Déchiffreurs.
Les Déchiffreurs, Voyage en mathématiques, c'est aux éditions Belin. C'est un livre merveilleusement fait par Jean-François Dars, Annick Laine et Anne Papillot. Mais c'est un très beau livre.
Voilà, ça c'était une aventure extraordinaire de découvrir que le public de ce livre, le public spontané de ce livre, n'est pas du tout le public des scientifiques, mais des gens, musiciens ou hommes de la rue ou femmes de la rue, qui en fait brusquement découvrent une autre dimension de ce qu'ils pouvaient imaginer.
Ah oui, on va le mettre sur le site internet du 7-9, oui. C'est un livre vraiment tout à fait passionnant à lire.
Juste un petit mot, en feuilletant très rapidement le livre, ce qui est apparu c'est qu'il y avait des photographies de femmes dans le centre de l'IHES. Or, il semblerait que les mathématiciennes sont assez rares en France.
Rare n'est peut-être pas le mot, puisque la France est un des pays où les femmes sont mieux représentées que dans d'autres, mais malgré tout, elles restent minoritaires. Et puis surtout, la chose qui est un peu désagréable et inadmissible, en fait, c'est que leurs carrières sont en moyenne moins rapides que celles des hommes.
Et ça, malheureusement, c'est une constante. Pour les mathématiciens que vous êtes, le mot constante a une résonance particulière, mais c'est tristement une constante.
Absolument. Mais d'autres pays sont dans des situations bien pires. Mais un travail énorme a été fait de ce côté-là, en particulier pour pas se priver du talent des jeunes femmes qui, en fait, sont brillantes en mathématiques et considèrent à un moment qu'elles ne sont pas faites pour elles, ce qui est une erreur grave.
Ce qui est très plaisant à vous écouter, c'est que vous avez dit aussi ils sont comme des artistes, des mathématiciens. Et on verra tout à l'heure s'il n'y a pas, en effet, une réelle dimension artistique dans l'exigence mathématique.
France Inter.com.
On a dit du 21e siècle qu'il serait celui de l'économie de la connaissance. Et en effet, les nanotechnologies, la biologie proposent déjà de nouvelles frontières à la connaissance. Dès lors, pourquoi ne pas dire et ne pas porter plus les mathématiciens, les physiciens, les biologistes français notamment, mais pas seulement, mais en tout cas les Français bien sûr, qui ensemble explorent les nouvelles frontières, Sandra.
Et nous allons tout de suite poursuivre notre discussion avec Jean-Yves Chemin. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous ce matin. Vous êtes mathématicien, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, mais aussi directeur de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris, qui est un réseau fondé par des universités et des institutions de recherche comme l'université Pierre et Marie Curie, mais aussi l'École Normale Supérieure, le CNRS ou le Collège de France. Alors, cette fondation a pour mission, entre autres, de développer l'intérêt général pour les mathématiques. Alors justement, pour développer notre intérêt général pour les mathématiques, au-delà des nombres, des outils, des concepts, des théorèmes et autres formules, en quoi les mathématiques permettent-elles de construire de nouvelles visions du monde?
Alors, les mathématiques, c'est une science, donc comme toutes les sciences, à sa dynamique interne. Mais c'est aussi vraiment, on peut le voir comme un langage assez universel pour décrire le monde. Donc peut-être on peut prendre des exemples. Donc un exemple qui n'est pas tout récent, mais qui est, je crois, emblématique, qui est sur les travaux de Jean Piaget. Donc Jean Piaget est quelqu'un qui a exploré la psychologie de l'enfance en particulier. Mmh. Et pour décrire la perception du monde par le petit enfant et son évolution, il a vraiment utilisé des concepts mathématiques issus de la topologie. Donc le concept d'espace topologique, d'espace métrique, le moment où apparaît la notion de distance, de grandeur. Et puis enfin les notions qu'on appelle euclidiennes. On a des notions d'orthogonalité, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est, y a des expériences et ça se traduit complètement en termes mathématiques, ce sont des structures mathématiques. Et d'ailleurs, il est amusant de voir que des mathématiciens comme les traités de Bourbaki prennent écrivent les mathématiques du plus abstrait au plus particulier.
C'est pour ceux qui ne sauraient pas, c'est pas un monsieur Bourbaki.
Non, c'est un collectif.
C'est un collectif. Voilà,
c'est un
groupe.
Ouais. C'est un collectif. Et souvent, les mathématiciens enseignent comme ceci, c'est-à-dire vont du plus général au particulier. Donc voilà un exemple où les concepts mathématiques interviennent. Donc c'est pas un exemple récent, hein, c'est un exemple des années, les travaux de Piaget qui utilisent ça sont dans les années 60. Il faut noter que ces premiers travaux n'utilisent pas ça parce que à la fin des années 20, ces concepts-là étaient en cours d'élaboration. Donc là, on voit vraiment un exemple où les mathématiques sont vraiment intervenues pour donner une interprétation conceptuelle à quelque chose qui, a priori, n'a rien à voir avec les mathématiques.
Mais alors, vous dites, Jean-Yves Chemin, que les mathématiques sont un langage. Il se trouve qu'on a un peu esquissé la question aussi tout à l'heure avec Jean-Pierre Bourguignon. Mais le langage, au fond, dans une société, c'est une construction partagée. On se met d'accord pour identifier un certain nombre de choses et on construit petit à petit le langage. Y a-t-il une construction des mathématiques ou les mathématiques sont-elles, comment dire les choses, presque préexistantes à nous? Est-ce que c'est une clé pour expliquer le monde, les mathématiques?
Ça, c'est une question philosophique.
C'est une question complètement philosophique. Alors, je crois que c'est quand on fait des mathématiques, on a l'impression de les découvrir. C'est-à-dire, on a l'impression, c'est quelque chose. Là, je vais donner une réponse pas du tout philosophique, mais une réponse très, très concrète finalement.
Quand de mathématicien.
De mathématicien qui fait des mathématiques. Quand on fait des mathématiques, on a vraiment l'impression de découvrir les choses. Mais je crois que c'est une impression. C'est là, je vais parler avec une sensibilité. Donc, je ne vais pas donner une réponse très théorique. Je vais donner une réponse d'artisan mathématicien. Quand on fait des mathématiques, on a l'impression de les découvrir. Voilà. Voilà ma réponse là-dessus. C'est un sujet très très philosophique et je donne une réponse, je crois, très pratique finalement.
Vous êtes dans la question que nous nous posons, car nous nous demandions si au fond les mathématiques et la physique, et on parlera demain aussi d'ailleurs de la biologie, avec un nouvel accès au vivant d'ailleurs qui est tout assez troublant, si c'est une clé pour comprendre le monde mieux que ne l'a été jusqu'ici par exemple, précisément la philosophie.
Alors je crois que c'est, certainement pour le monde, je dirais, concret, ou je vais prendre un autre exemple, hein. Si on veut étudier la structure du cerveau, donc là un exemple plus contemporain, il y a des mathématiques déjà qui sont utilisées pour décrire, essayer de comprendre le cerveau, qui est quand même un problème extraordinairement complexe. Et je crois que là, il y a des mathématiques à inventer. C'est-à-dire les mathématiques pour comprendre le cerveau n'existent pas. Typiquement, qu'est-ce que c'est le cerveau? C'est un nombre gigantesque de neurones. Or, classiquement, en mathématiques, quand on a vraiment beaucoup, beaucoup, par exemple des molécules d'eau, si on veut décrire un mouvement d'un fleuve qui coule, c'est plein de molécules d'eau. On a oublié que c'était des molécules et on a fait quelque chose, on travaille dans un espace qu'on appelle continu en mathématiques. On a oublié les particules. Pour le cerveau, je ne crois pas qu'on puisse faire ça. Et par contre, on ne sait pas, on n'a pas les concepts pour étudier ces systèmes énormes. C'est des choses, par exemple, moi j'ai entendu Gérard Berry, qui est un informaticien au Collège de France, dire que c'était ça, c'était un très, très grand problème. D'étudier des systèmes avec un très très grand nombre d'éléments, mais on ne peut pas dire qu'il y en a une infinité. Et en même temps, les méthodes, j'allais dire, de mathématiques discrètes finies actuelles sont insuffisantes.
Donc mais Jean-Yves Chemin, vous parlez là du cerveau. Est-ce que c'est applicable, ce que vous êtes en train de dire, à tous les réseaux? Parce que, mine de rien, aujourd'hui,
oui,
on vit complètement.
Je prends l'exemple du cerveau, mais.
C'est-à-dire Internet, enfin, tous les réseaux
donc,
sociaux,
réseaux
téléphoniques.
Il y a des structures à inventer il y a des mathématiques à inventer là.
C'est le défi.
Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut parler véritablement des mathématiques comme un outil transverse? C'est-à-dire, au fond, les passerelles existantes, là aussi, on l'abordera demain, mais entre les mathématiques et l'entreprise, l'industrie, les mathématiques et la biologie, les mathématiques et les nanotechnologies. Enfin, est-ce qu'il y a une transversalité mathématique qui est en effet un outil aujourd'hui adapté au monde tel que nous le découvrons?
Dès que des scientifiques écrivent un modèle, ça se formule en termes mathématiques. Ça, c'est. Les physiciens écrivent des modèles mathématiques, les biologistes maintenant et de plus en plus écrivent des modèles mathématiques. Donc à ce titre-là, Je veux dire, tout le monde fait des mathématiques.
Avec des limites, d'une certaine façon, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais des mathématiques et la finance, enfin les mathématiques sont partout, dans la finance, quand on parle des séismes, on parle des mathématiques. Mais par exemple, est-ce que ça aide aussi à mieux comprendre les phénomènes climatiques, les mathématiques ?
Oui, alors ça c'est bon, c'est un sujet qui est un sujet brûlant, d'actualité.
Polémique même.
qui est polémique. Alors, il faut pas, si on attend des mathématiques, un mathématicien démontre un théorème et vous dise en fait, avec mon théorème, je vous dis que la température moyenne sur la Terre va se réchauffer de 3 ou de 5 degrés. Non, c'est pas ça. Par contre, les mathématiques peuvent aider. D'abord, elle modélise, hein, c'est-à-dire que tous les modèles atmosphériques sont des modèles mathématiques, des modèles d'équations, ce qu'on appelle des équations d'effet partiel dans notre jargon. Hein, essentiellement, c'est comme ça. Et les mathématiques peuvent aider à valider des modèles, parce qu'il y a plusieurs, il y a évidemment plusieurs modèles. C'est pas toujours clair de savoir si ces modèles, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre, et quand on les met sur ordinateur et comment on les met sur ordinateur, là, les mathématiques ont des choses à dire.
Vous dites notre jargon. On vient de recevoir un mail très sympathique, d'ailleurs probablement d'un jeune mathématicien qui s'appelle Antoine Rousseau, et qui pose la question de la vulgarisation des mathématiques. Ce qui est probablement assez difficile, parce que quand on arrive à un certain niveau, notamment les vôtres, il n'est pas facile de communiquer, de faire comprendre ce que vous faites. Alors, il nous dit qu'il y a une formidable initiative à Grenoble, le 21e congrès annuel « Maths en jean ». Ça a lieu à Grenoble. Il y a un site internet qui s'appelle mathengine.free.fr. C'est pour ceux que ça intéresse. Mais comment faire pour vulgariser les mathématiques? Car on ne sait pas suffisamment que les mathématiciens français, que les physiciens français sont aujourd'hui parmi les meilleurs du monde. Ça tient à quoi, justement? À la difficulté de vulgariser?
Alors, c'est vrai que les mathématiques sont une discipline plus difficile à vulgariser que la physique. Par exemple, de l'astrophysique, si... quand on prononce le mot amas galactique, ça évoque chez tout le monde quelque chose. Je suis pas sûr que ce soit ce que les physiciens, les astrophysiciens ont à l'esprit, mais ça évoque quelque chose. Si je vous dis, par exemple, une sous-variété, ça vous évoque rien. En fait, c'est juste une surface. Voilà. Ah. Donc, il y a un problème de langage. Il faut faire très attention à ça. Et très vite, un concept mathématique peut ne rien évoquer. Mais il y a, donc ça veut dire que on a un travail à faire d'explication, mais c'est tout à fait possible. Hein, avant-hier, j'étais à un exposé de Sciences à cœur à l'université Pierre-Marie Curie, qui était fait à l'occasion de la réception du docteur honoris causa d'un collègue de John Ball, un collègue anglais. Et en fait, le directeur de mon laboratoire a fait un exposé où il n'y avait pas une seule formule. Il a parlé des interactions de mathématiques et de la biologie pendant une heure et demie. Il n'y avait pas une seule formule. Donc c'est possible. Il a dit des choses sur les mathématiques. Donc c'est possible, il faut faire cet effort, et je crois que les mathématiciens ne l'ont pas toujours fait, mais de plus en plus, les mathématiciens sont conscients que c'est quelque chose de nécessaire, et c'est quelque chose qui est aussi agréable à faire. Après tout, les mathématiciens français sont des enseignants, pour la plupart, et la transmission, ça fait vraiment partie de notre métier.
Stéphane Paoli,
le 7-9 du week-end.
Sandra Freeman,
le 7-9 du week-end.
Sur France Inter.
C'est le 7-9 du week-end qui se poursuit sur France Inter. Nous parlons ce matin de cette particularité française méconnue, celle d'être une terre de mathématiques avec une communauté mathématique comptant plus de 3700 chercheurs et enseignants-chercheurs. Mais tout de suite, nous allons ouvrir la parenthèse à la philosophie avec vous, Laurence Luret. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous recevez ce matin le philosophe Roger Paul Droit.
Oui, puisque vous parlez mathématiques ce matin, eh bien c'est l'occasion de revenir sur cette crise financière, économique et sociale que nous vivons, car spéculateurs et banquiers ont cru pendant des années pouvoir gérer le risque à l'aide de calculs, de probabilités en tout genre, avec l'issue fatale qu'on connaît. Bonjour Roger Paul Droit.
Bonjour.
Merci d'être au micro de France Inter ce matin. Vous êtes philosophe et vous publiez avec François Inroux, président de la banque d'affaires Rothschild, un livre dans lequel vous analysez cette crise. Alors un banquier et un philosophe, c'est une idée original, puisque, comme vous l'écrivez, en apparence, tout vous sépare. Le banquier veut du chiffre, du profit. Le philosophe s'intéresse à ce qui n'a pas de prix, la vérité, la liberté. Ça veut dire, Roger Paul Droit, que les banquiers sont à nouveau fréquentables?
Ça veut dire en tout cas qu'il faut parler. Je ne crois pas que l'imprécation suffise et je ne pense pas que le philosophe doive être dans une posture de condamnation, de refus. Il s'agit de comprendre. Et pour comprendre, il faut commencer à avoir des informations, vous le savez bien. Et donc, avec François Henrot, nous avons essayé de mettre à plat, avec nos divergences, avec nos regards différents, un certain nombre d'éléments pour savoir ce qui s'est passé. Les mathématiques sont évidemment au centre de ces 10 dernières années. Cela ne signifie pas que les mathématiques soient responsables. L'erreur, évidemment, souvent, c'est de dire, voilà, eh bien, il y a eu des, en quelque sorte, des mathématiciens apprentis sorciers qui auraient inventé des outils qui conduiraient à cette crise. Ce serait faire bon marché et trop vite oublier l'eau de mer, la rapacité, la cupidité. Mais je crois que, si vous voulez, si on veut comprendre et commencer à avoir quelques décryptages de la crise financière dont on n'est évidemment pas sorti dans ses conséquences sociales terribles, il faut essayer de reconstituer la complexité.
Alors justement, ces virtuoses des marchés ont été gavés de modèles mathématiques et ont cru qu'ils pouvaient escamoter le risque, faire disparaître l'imprévu. En quoi, selon vous, ont-ils péché par démesure de la raison, comme vous l'appelez ?
J'appelle ça la démesure de la raison parce que à partir d'outils nouveaux, on avait des algorithmes nouveaux, on a fait une confiance absolument excessive à ces modèles. C'est-à-dire que, en bref, on a notamment aussi, dans les calculs de probabilité, coupé les extrémités de la courbe de Gauss. Vous savez qu'on a une courbe en cloche qui fait que le plus grand nombre de probabilités se trouve au milieu, et puis les risques ultimes, soit l'absence de risque, soit la catastrophe, sont sur les bouts. Alors on a coupé, on prenait la moyenne. Ensuite, on a... c'est ce qu'explique François Henrot comme praticien de la finance. On a finalement cru, dans les salles de marché et à la direction des banques, que l'on avait inventé en quelque sorte la pierre philosophale, qu'on était entré dans un monde où il n'y avait plus de risques, où on tenait en quelque sorte les clés d'une réussite permanente, d'une sorte d'utopie réalisée, la fin de l'histoire. Enfin, il n'y avait plus d'accidents. On oubliait, autrement dit, la réalité de la contingence. Alors, quand je parle de démesure de la raison, c'est que je crois que le philosophe doit avoir le regard long, si vous voulez, essayer de mettre en relation des choses profondes dans l'histoire. Les Grecs pensaient que la raison, c'était la mesure, que la démesure, c'était la déraison. Et je crois que ce que nous avons inventé à travers les mécanismes de cette crise, c'est ce que j'appelle une démesure de la raison. C'est-à-dire on pensait qu'avec des outils rationnels, on tenait tout.
Ça veut dire que pour vous, les banquiers ont construit une nouvelle utopie aussi illusoire que la République de Platon ?
En tout cas...
Parce que Platon nous dit plutôt, nos yeux de chair nous empêchent de voir la réalité. Donc il faut passer par le raisonnement, par la raison. Or là, ces instruments mathématiques, il n'y a pas plus... je ne vais pas dire raisonnable parce qu'ils ne l'ont pas été, mais on est entièrement dans la rationalité.
En tout cas, on est arrivé aux antipodes de Platon. Effectivement, parce que dans la République, ce sont les outils et les modèles mathématiques, en quelque sorte, les formes, qui permettent de voir une réalité que nos yeux physiques, corporelle, rate. Là, j'ai le sentiment, au contraire, que le mauvais usage d'outils mathématiques hypertrophiés, cette démesure de la raison, a masqué la réalité du risque, la réalité des contingences humaines, la réalité aussi des conflits de toutes sortes, et que finalement, cette croyance dans une sorte d'utopie réalisée a fait que l'ensemble du monde financier s'est pris les pieds dans le tapis. Quoi.
Mais en quoi, Roger Paul-Droit, y a-t-il eu également ce que vous appelez l'illusion de l'éternel aujourd'hui ? Est-ce que vous pourriez expliquer d'ailleurs rapidement cette notion ?
C'est un autre aspect de ce que j'appelle la démesure de la raison découpe, elle dissocie, et puis à la condition que cette analyse soit toujours accompagnée d'une synthèse, qu'on remette les choses. On a en quelque sorte isolé le présent. Beaucoup parlent aujourd'hui, à la suite de François Hartog, du présentisme, c'est-à-dire que nous avons le sentiment que nous sommes, à travers Internet, à travers des tas de déterminations de notre société, dans d'un présent permanent. nous oublions le poids des siècles ou même des récentes années, et nous oublions aussi les générations futures sur lesquelles nous empilons des dettes à n'en plus finir. Autrement dit, il y a une sorte de d'isolation, si j'ose dire, d'isolement d'un présent en oubliant la continuité de l'histoire qui, jusqu'à maintenant, avait fait toujours aussi la conscience des sociétés.
Roger Paul-Droit, pour conclure en quelques mots, à vos yeux, est-ce la fin du capitalisme ou, au contraire, va-t-il trouver matière à se régénérer en d'autres termes? On reprend les mêmes et on recommence, quoi.
Ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, je crois que ce n'est pas la fin du capitalisme et je crois qu'on ne peut pas prendre les mêmes et qu'on recommence. Le capitalisme, il a les reins encore fort solides. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de vraies solutions de rechange. En revanche, et c'est le désaccord qui s'approfondit dans ce livre entre François Henrault et moi, bien qu'on ne se tape pas dessus, mais on a une vraie divergence. Il est contre toute régulation. Il fait confiance à la fois au rééquilibre du système et à la vertu des grands dirigeants, de certains au moins. Moi, je suis pour une politique d'intervention des États, ne croyant pas que les vertus personnelles peuvent suffire ou qu'on peut tabler dessus.
Merci Roger Paul-Droit. Je rappelle que votre livre s'intitule « Le banquier et le philosophe », écrit donc à quatre mains avec François Henrault, à lire ce week-end, surtout si vous allez bientôt voir votre banquier. Et c'est publié aux éditions Plon dans la collection Tribune Libre.
Alors bien sûr, Jean-Pierre Bourguignon, vous qui êtes avec nous depuis 7 heures et qui dirigez l'IHES, l'Institut des Hautes Études Scientifiques, référence faite à l'instant à Platon, la sagesse de Platon, malgré la puissance des algorithmes qui sont seuls aujourd'hui à pouvoir gérer l'économie en temps réel, un cerveau humain ne peut plus suivre tellement ça va vite. Conserverons-nous la maîtrise de nos raisonnements, de nos analyses? Et les mathématiques, par leur puissance de pénétration, sont-elles encore dans le monde réel ou nous proposent-elles un monde dont nous perdrons le contrôle, un monde virtuel qui va nous échapper?
Disons que, à propos de la crise financière, je crois qu'on touche une chose tout à fait importante dans l'intervention des mathématiques dans la société. Je pense que une des choses qu'il faut bien voir, c'est que tous ces modèles stochastiques s'appuient sur des données. Or, ce qui était vraiment la base de la construction de ce monde financier a été un non-partage des données. Puisque les données devenaient une valeur importante pour une banque ou une compagnie d'assurance, et évidemment, il était fondamental de ne pas les partager, puisque c'était presque la ressource, devenait une ressource essentielle. Or, si on veut vraiment étudier le système un peu globalement, on a exactement besoin du contraire, que les données soient partagées pour qu'on puisse mesurer ce que sont les risques que les autres vous font courir.
C'est-à-dire qu'au plan mathématique, on aurait pu anticiper et éviter cette crise
disons
économique,
qu'on aurait
selon vous.
Dû peut-être plus tenir compte d'une chose qui est une donnée nouvelle, c'est qu'on utilisait des modèles stochastiques. Les mathématiciens ont fait des progrès fantastiques dans le contrôle de ces processus, mais ces processus sont des processus qui, pour se caler, ont besoin de données en quantité considérable. Et à partir du moment où on privatise les données, on ne les partage plus, ça devient une illusion, ce qu'on fait. Et en particulier, ce que dit Roger Paul-Droit à juste titre, c'est que les processus qui ne sont pas en fait des processus gaussiens, parce qu'ils sont plus compliqués, pour appréhender leur caractère non gaussien, il est nécessaire qu'on partage les données. Et les banquiers ont refusé de le faire, ou non, justement, du fait que c'était comme ça qu'ils gagnaient de l'argent.
Mais Jean-Yves Chemin, alors vous aussi, vous êtes mathématicien, professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Il y a le partage, dit Jean-Pierre Bourguignon, partager les données. Il y a un enjeu éthique dans la recherche. Enfin, quand vous travaillez tous ensemble, que ce soit à l'IHESS ou ailleurs, il y a un partage des informations et de la connaissance. Dans ce qui vient de se passer s'agissant de l'économie, on n'était pas du tout dans le partage. On était dans une quête immédiate du profit.
Oui.
Est-ce qu'on va sortir de ça?
Alors bon, je crois vraiment que sur cette crise, on a vraiment un exemple d'utilisation, je dirais, excessive et de fois vraiment excessive en des modèles. Je crois que ce qui s'est passé en finance, c'est un petit peu l'équivalent de on vous modélise un avion, on le construit, on fait aucun essai, aucune validation de modèle et moi je monte pas dans l'avion. Je suis mathématicien, je ne monte pas dans l'avion.
Mais sauf qu'on était obligé d'être à bord. Moi, j'ai pas le droit.
On nous a pas beaucoup demandé notre avis.
Mais je crois qu'il s'est vraiment passé quelque chose comme ça.
Sur les données, je voulais juste ajouter un point. Il y a eu effectivement privatisation, vous avez tout à fait raison, mais il y a eu aussi utilisation abusive de données non pertinentes. La crise des subprimes n'aurait pas eu lieu dans cette manière-là et de ces dimensions si les tables de risque n'avait pas été calculé, en gros, sur le remboursement d'Américains moyens ayant une situation stable, alors que on vendait, avec de bonnes et parfois de très perverses raisons, des maisons non remboursables à des émigrés qui avaient des revenus non stables, qui avaient des petits boulots, qui avaient, vous voyez, c'est-à-dire que on calculait le risque sur d'autres situations que celles sur lesquelles on prêtait réellement. Et ça, c'est effectivement une pure et simple manipulation.
Nécessité, décidément, de faire comprendre, de faire savoir, de faire connaître, nécessité de la vulgarisation. Un mot peut-être sur Matandine à Grenoble, là, qui se tient aujourd'hui et demain, qui est une formidable, monsieur Bourguignon, tentative de vulgarisation, de faire passer d'un certain nombre de messages importants aussi.
D'ailleurs. Oui, ça, c'est une longue aventure de chercheurs et d'enseignants qui ont voulu faire partager leur passion des mathématiques à des jeunes lycéens, donc des contextes où justement on mettait des jeunes en situation de faire eux-mêmes des mathématiques dans toutes leurs dimensions, c'est-à-dire s'approprier un problème, aller jusqu'à la présentation, donc la réflexion dans la durée avec des contacts suivis dans l'année, et finalement un congrès, comme un congrès de professionnels, où des jeunes peuvent présenter leurs travaux devant leurs camarades et avec le même niveau d'exigence dans la présentation qu'on peut le faire dans un congrès professionnel. Donc cette aventure est absolument remarquable, et je dois dire qu'elle est quand même, comme toujours, ce genre d'aventure s'appuie sur un volontariat fondamental, et que toujours très difficile d'obtenir un relais réel des institutions derrière ça. Moi, j'ai eu l'occasion de participer en Chine, juste une phrase là-dessus, d'un congrès, à une aventure du même nature avec 800 équipes à l'échelle nationale. Moi, j'étais jury des finalistes, 15 finalistes à Pékin au mois de décembre. C'était absolument l'émerveillement devant ce qu'avaient pu faire des jeunes qu'ils ont 13, 14, 15, 16 ans. En faisant eux-mêmes des mathématiques à un niveau qui est presque déjà pour certains un niveau professionnel et dans la passion.
Et la passion et l'engagement, vous savez de quoi vous parlez, parce qu'on disait que c'était M. Mochan qui avait créé l'IHES, mais c'est vraiment grâce à Jean-Pierre Bourguignon qui ne cesse de se développer et d'avancer, et il faut aller chercher.
C'est son quatrième directeur.
Non, c'est un institut privé d'ailleurs, c'est le même statut, c'est une fondation un peu comme l'Institut Pasteur, donc
exactement.
Il faut quelquefois l'argent dont on a besoin pour que la recherche avance, il faut aller le chercher, et ça, Jean-Pierre Bourguignon, il est à la manœuvre, comme on dit. Merci. Merci d'avoir été avec nous. On continue demain. D'ailleurs, on va recevoir un de ceux qui est sur la liste peut-être de la médaille Fields là, au mois d'août prochain,
exactement.
Cédric Villani. On a prononcé son nom. Alors, je ne sais pas s'il a une chance ou pas. Enfin, en tout cas,
Cas, il sera là demain.
Et on verra les passerelles entre les mathématiques et l'entreprise, les mathématiques et la biologie. Merci vraiment, Jean-Yves Chemin, à vous d'être venu.
Merci
avec
beaucoup.
Nous. Le rappel de l'essai de M. Paul Droit.
Alors, Roger Paul Droit et François Henrault, Le banquier et le philosophe, c'est publié aux éditions Plon, Tribune Libre, 18,90 €.